Très heureux de vous accueillir sur Présence partout dans l'ex-région Midi-Pyrénées avec vos émissions habituelles comme l'interview d'Isabelle Honnel. Elle est avec Bruno Bergouen, senior vice-président chez Safran et représentant de France Industrie en Occitanie. C'est dans 10 minutes. Et des actualités avec Emmanuel Pella, c'est dans ça, dans 20 minutes. Vous aurez bien évidemment votre évangile de ce jour, le tour des diocèses, sans oublier votre chronique, mais juste avant, bien évidemment, les titres avec Emmanuel Hernandez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vos titres en Occitanie. Le pape François a nommé en ce jour Mgr Olivier de Germay, archevêque de Lyon, et Mgr Bertrand Lacombe, archevêque d'Auch. 1 million d'euros de fonds d'urgence pour les festivals d'Occitanie. Les festivals sont parmi les premiers impactés par la crise sanitaire. Le chômage partiel ou l'exonération des charges ne suffisent pas. Un fonds d'urgence de plus d'1 million d'euros a donc été débloqué pour notre région. Aurélien Pradier, député du Lot, a présenté le bilan de sa mission de contrôle d'application de la loi contre les violences conjugales. 9 mois après le vote de la loi, ont été auditionnés avocats, associations ainsi que les représentants des ministères de la Justice pour constater comment les nouvelles mesures sont appliquées. La communauté arménienne a manifesté à Foix hier. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées en centre-ville pour protester contre le conflit avec l'Azerbaïdjan qui touche la région du Haut-Karabakh depuis plusieurs semaines. 15% des dépenses non alimentaires des Gersois sont réalisées en ligne. Une hausse de la consommation a été constatée, tirée par les produits alimentaires. Cette hausse a profité aux grandes surfaces grâce au drive, mais également au marché et au circuit court. Le TFC ouvre 1000 places au stadium à ses abonnés. C'est le pari que va faire la direction du TFC ce samedi à l'occasion du derby d'Occitanie de Ligue 2 de football contre ses voisins de Rodez en Aveyron. Effet inattendu de la tempête Barbara, elle a balayé le manteau neigeux dans les Pyrénées. Les épisodes neigeux avaient pourtant été très importants et assez inhabituels pour cette période de l'année dans les Pyrénées.
Merci Manol, on vous retrouve dans une demi-heure pour un autre point sur l'actualité dans l'Occitanie.
La météo.
Pour cet après-midi, un temps très nuageux avec 20 degrés de moyenne dans notre partie d'Occitanie. Pour demain matin, des risques d'averses s'étalent dans votre région. 15 degrés à Cap-de-Nac-le-Haut ainsi que près de l'hôtel de ville de Saint-Gaudens. 13 à Vic-en-Bigorre et dans l'Aveyron. 16 à l'entrée du métro François-Verdier à côté de la salle des fêtes Lalograin à Toulouse. Pour demain après-midi, la perturbation reste. Le mercure montera jusqu'à 17 degrés dans le Lot. Attention, en Haute-Garonne, des averses orageuses sont à prévoir, ainsi qu'en Haute-Pyrénées où vous aurez 16 degrés sous votre parapluie, à 14 pour Rodez.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Comment l'industrie se mobilise face à la crise? C'est votre sujet, Isabelle.
Et oui, les acteurs de l'industrie devaient avoir leur salon annuel cette semaine à Toulouse. Alors le Covid en a décidé autrement. Avec la crise, certaines filières, vous le savez, sont fortement perturbées. Et on pense naturellement à l'aéronautique. Quels sont les autres pans impactés? On verra cela avec mon invité. Mais on s'arrimera ce matin aux aspects positifs que l'on peut malgré tout percevoir. L'entraide, la mobilisation entre les filières et pourquoi pas les opportunités offerte par la crise. Bonjour Bruno Bergouen.
Oui, bonjour Isabelle Honnel, bonjour à vos auditeurs et aux auditrices.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous représentez France Industrie Occitanie qui rassemble 10 fédérations professionnelles de l'industrie. Pour en citer quelques-unes, il y a la filière bois, la filière chimie, la filière agroalimentaire, la filière industrie de la métallurgie. Cette filière-là d'ailleurs que vous représentez, vous êtes son président. Vous êtes aussi senior vice-président des programmes Airbus et ATR chez Safran. Voilà pour les présentations. Bruno Bergouen, pour poser les termes de notre échange, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide panorama de l'industrie en Occitanie, toutes filières confondues? Je crois que ça représente 200 000 emplois. Hein.
Oui, c'est un tout petit peu plus de 200 000 emplois, de 220 000 exactement. Et nous avons effectivement, comme vous l'avez dit, 10 filières qu'on pourrait répartir au niveau de l'activité en 3 catégories. Il y a celles qui sont maintenant revenues au taux d'activité qu'elles avaient avant la crise sanitaire du mois de mars. Je cite par exemple l'industrie du médicament, de la chimie, de l'énergie, de l'agroalimentaire, donc qui sont revenues à des seuils pratiquement de 100% d'activité. Vous avez ceux qui sont qui n'ont pas encore tout à fait retrouvé l'activité, on va dire qu'ils sont dans un niveau de 85%, donc ça reste quand même très positif. Essentiellement, c'est la filière de la plasturgie, du bois, des carrières et matériaux. Et puis, il y a trois filières qui sont un peu plus à la traîne, le textile, la métallurgie et le nautisme. Pour des raisons d'ailleurs tout à fait différentes. La métallurgie, vous en doutez, c'est la crise aéronautique, dont on parlera peut-être un peu plus en détail. Et le textile et le nautisme, c'est plutôt par l'absence de salons ou de grands salons internationaux, parce qu'il n'est plus possible de les faire. Et ces acteurs vendent surtout sur des salons internationaux. Et donc, ils ont des taux de reprise d'activité qui sont inférieurs en gros à 70%, voilà, comparé aux autres.
Donc, 220 000 emplois répartis sur toutes ces filières, à des degrés, on le comprend, différents face à la crise. La métallurgie, je crois que évidemment, c'est la première filière sinistrée. Dans quelle proportion ?
Alors, la métallurgie, c'est 110 000 salariés, exactement, avec, on va dire, 60 000 qui sont très liés à l'industrie aéronautique, donc aux grands constructeurs, aux grands équipementiers de l'aéronautique. Et là, effectivement, les activités à ce jour ont fléchi de 40%.
Activité fléchie, une cinquantaine de plans annoncés, de la petite TPE à la TECOR,
oui.
Airbus.
Oui, nous commençons à avoir effectivement des plans de sauvegarde de l'emploi, et donc effectivement, nous avons une cinquantaine d'établissements sur la région qui commencent à travailler sur effectivement ces plans-là. Alors, ils sont quand même extrêmement, sur les 50, peut-être que plus de la moitié sont sur la région proche de Toulouse, de Grand Toulouse, on va dire, puisqu'il y a une concentration de cette industrie autour de Toulouse. Mais n'oublions pas que quand même l'Occitanie, c'est quand même 10 000 établissements, donc à peu près 10 000 sociétés. Donc l'industrie reste quand même très présente en Occitanie, mais effectivement il faut traiter ce problème aéronautique, car on sait que ce secteur d'activité ne redémarrera pas avant 2-3 ans. Il faut que vraiment cette crise sanitaire soit terminée et que les compagnies aériennes puissent de nouveau avoir la confiance des passagers et des hommes d'affaires pour en faire voler leurs avions.
Alors, j'ai parlé de rester positif ce matin, donc on va pas s'étendre sur ces constats un peu désastreux. Depuis 6 mois, on parle beaucoup de l'aéronautique. Si on veut rester positif, on s'aperçoit, vous nous l'avez dit, que des filières se portent moins mal. J'aimerais qu'on mette un petit peu la focale sur elles, notamment, vous nous l'avez dit, sur le médicament et la chimie. Elles sont les filières qui reprennent une activité normale. Est-ce que vous avez des exemples de succès industriels dans ces filières ? Pour illustrer qu'il n'y a pas que l'aéro en Occitanie.
Oui, de toute façon, ces filières, j'ai pas besoin vraiment de citer de grands succès. Il n'y a pas de grands scoops, mais ces filières, effectivement, sont extrêmement importantes pour notre territoire, parce que, par définition, ces sociétés industrielles ou ces filières sont extrêmement bien disséminées sur l'ensemble du territoire de l'Occitanie. Et donc, effectivement, elles participent à la création d'emplois sur l'Occitanie. Ce qui est important, c'est surtout ce que vont pouvoir faire ces filières dans le futur, puisque vous le savez, le gouvernement, à travers le plan France Relance, est en train d'essayer de booster l'ensemble des filières, et notamment de l'industrie en France, et en particulier en Occitanie, puisqu'il y a 30 milliards de fonds qui sont alloués à nos industries en France pour justement trouver des relais de croissance. Et aujourd'hui, si vous me parlez de la chimie, et dans la chimie, il y a d'énormes possibilités aujourd'hui de ce qu'on appelle de chimie verte, par exemple. C'est l'extraction de molécules végétales et de les utiliser dans l'industrie de la cosmétique. Oui, c'est un exemple. Dans la filière bois, vous avez aujourd'hui des technologies qui sont à développer et qui restent à développer. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser ces fonds du plan de relance pour travailler sur les isolations thermiques des bâtiments, puisqu'il y a ce sont effectivement des sujets qui sont très importants. Donc on voit qu'il n'y a pas que l'aéronautique, mais il faut effectivement s'occuper de l'ensemble de ces filières en Occitanie. Et c'est un peu le rôle de France Industrie Occitanie, d'essayer de coordonner et de promouvoir toutes les actions qui peuvent nous aider à rebondir face à cette crise sanitaire.
Alors le rebond, effectivement, vous y travaillez avec France Industrie Occitanie. Comment est-ce que vous vous serrez les coudes? Je crois que vous avez mis en place un nouveau dispositif, ça s'appelle Passerelle Industrie, notamment pour favoriser les transferts de compétences. Hein.
Tout à fait. Quand on regarde les 10 filières industrielles en Occitanie, elles avaient toutes avant la crise, de toute façon, des problèmes d'attractivité, des problèmes de formation, des problèmes de compétitivité et de transformation sur les métiers. Donc, il nous a paru vraiment sensé d'essayer de traiter certains problèmes, notamment aujourd'hui, certaines sociétés, on vient de le dire, de la métallurgie, vont sûrement se séparer de collaborateurs qui ont été formés à des technologies très, très, très nouvelles, qui ont de la compétence. Donc, ces gens sur lesquels nous avons investi pendant des années, il est hors de question de les laisser partir de notre territoire. Notre territoire en a besoin. Et c'est pour ça que nous avons décidé de voir comment nous pouvions effectivement faire des passerelles entre les différentes branches industrielles, c'est-à-dire mettre en contact des entreprises qui vont avoir besoin soit de faire des prêts de personnel parce que leur carnet de commandes n'est pas assez fourni, ou soit qui vont devoir s'en séparer, de les mettre en contact avec des sociétés du groupe de filière agroalimentaire, de la filière bois, de la chimie, et de leur présenter ces candidats. Et donc c'est pour ça que nous avons mis en place, et c'est ce que nous voulions annoncer effectivement lors du salon SIAM, des collaborateurs qui sont sur le terrain. Nous aurons à peu près d'ici la fin de l'année 7 collaborateurs qui travaillent pour l'ensemble de ces 10 branches, qui vont faire ces liens entre les sociétés qui ont besoin de recruter et celles qui ont sûrement des départs d'effectifs, afin d'être assez efficaces et de flécher effectivement immédiatement les besoins.
Ça veut dire que... Oui. Un salarié qui se trouve à la chaîne chez Airbus peut se retrouver dans l'agroalimentaire ou dans la filière bois, c'est ça ?
J'ai déjà des exemples qui sont en train de se construire. On a des salariés du monde aéronautique, alors je ne citerai pas forcément Airbus, mais dans ses partenaires, qui sont en train de répondre à des candidatures sur le monde de l'énergie, d'EDF par exemple, sur des activités de soudure, ces activités de chaudronnerie, mais nous en aurons bientôt aussi dans des activités sur des chaînes de montage ou des chaînes de fabrication dans l'agroalimentaire ou dans d'autres secteurs. Donc on voit très bien que les métiers...
Oui. Ça concerne en particulier les petites entreprises, les TPE, ou toute entreprise de toute taille confondue est concernée?
Ça concerne essentiellement quand même des ETI et surtout des TPE, PME. Vous savez que le tissu, quand on parlait qu'il y avait 220 000 salariés en Occitanie, 80% de ces salariés, enfin 80% des... Oui, les salariés quand même travaillent en général dans des TPE, PME. Il faut le rappeler. C'est un peu moins vrai dans l'aéronautique, puisque vous savez que nous avons de la chance d'avoir en région des grands constructeurs. Mais au dehors de ces quelques exemples dans les médicaments ou dans l'aéronautique, après, l'ensemble du tissu industriel est largement représenté par des TPE, des ETI.
Alors voilà donc un exemple de coopération et quelque chose de positif que fait naître la crise, même s'il ne s'agit pas ce matin d'outrager, d'offenser ceux qui se retrouvent dans une situation complexe. Bruno Bergoen, je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous représentez France Industrie Occitanie, qui rassemble 10 fédérations professionnelles de l'industrie. Est-ce que vous pourriez tout de même voir la crise comme une occasion de saisir certaines opportunités, ou en tout cas c'est l'opportunité de se remettre en question, de revoir les habitudes de travail notamment?
Oui, tout à fait. Cette crise nous apprend à tous qu'il faut travailler sûrement différemment. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons accéléré les coopérations entre les 10 branches industrielles en Occitanie. Je pense que sans la crise, nous aurions été moins efficaces à trouver des sujets de partenariat. C'est un exemple. Aujourd'hui, effectivement, je vous parlais du plan de France Relance. Nous travaillons également entre nous pour aider nos TPE-PME à répondre à des appels à projets. Et c'est là où, effectivement, il y a des relais de croissance. Dans ces appels à projets, en général, ils sont fléchés sur 3 catégories. La compétitivité des entreprises, l'écologie et la formation des hommes, donc des salariés de nos entreprises. Quand on regarde l'écologie, effectivement, aujourd'hui, il est très important que nos TPE-PME, dans chacune des branches d'ailleurs, se lancent sur des activités nouvelles de recherche, de développement, sur des produits qui n'existent pas aujourd'hui et qui nous permettront effectivement d'être plus économes en CO2, par exemple, ou d'aller vers du zéro émission. C'est vrai pour l'aéronautique, mais c'est vrai également pour toutes les autres branches. Donc là, effectivement, il faut rester il faut rester positif, parce que je crois que ces événements, en quelque sorte, accélèrent aussi certaines diversifications, certaines prises de conscience et certains développements de nouveaux produits, et donc nous donneront sûrement pour demain des nouvelles opportunités.
Alors c'est quoi justement les relais de croissance pour les principales filières? Quand on pense aéronautique, on pense décarbonisation de l'avion, l'hydrogène, je crois, hein, qui a le vent en poupe, dont on parle beaucoup.
Oui, tout à fait. Donc pour cette filière-là, il y aura bien sûr la décarbonation de l'avion. C'est pas que l'hydrogène, ça peut être aussi du plus électrique, ça peut être aussi des carburants synthétiques hybrides. Et donc il faudra créer des filières de la production au transport, jusqu'à l'acheminement nouveaux carburants sur les aéroports. C'est un exemple. Mais j'ai parlé tout à l'heure de la chimie verte avec effectivement des molécules beaucoup plus végétales pour l'industrie du médicament ou du cosmétique. Et pour la Fédération du bois, par exemple, il y a énormément de technologies aujourd'hui sur les fibres végétales qui peuvent être beaucoup plus utilisées demain dans la construction des bâtiments. Donc tous ces projets sont à des niveaux de développement ou de recherche et développement. Et il faut effectivement que dans les 2 ans qui viennent, les 3 ans qui viennent, les technologies soient maturées afin de pouvoir effectivement faire des entrées en service, comme on dit, de ces nouveaux produits.
Alors, vous êtes tellement positif que j'ose à peine vous poser ma dernière question. La sortie de crise, vous la voyez quand?
Alors, la sortie de crise, vous l'avez vu que pour les 10 branches, ce n'est pas pareil. Les 3/4 qui sont déjà sortis de crise et qui maintenant doivent appuyer sur l'accélérateur. Et puis, il y en a 3 qui doivent attendre un peu que cette crise sanitaire se termine, ou du moins que les premiers vaccins soient diffusés. Et moi, je suis assez confiant. Vous savez, dès que les vaccins seront trouvés et effectivement diffusés, je pense que les gens continueront à revoyager, à refaire des salons professionnels, parce que c'est ce qui nous manque pour le textile et le nautisme. Certes, on voyagera peut-être plus comme avant, mais il y a des choses qui auront changé. Comme vous disiez tout à l'heure, on travaille à distance, il y a la visioconférence, il y a des choses qui resteront. Mais je pense que nos industries, l'industrie aéronautique, pour revenir sur elle, parce que c'est elle qui est la plus en crise, vous savez, reste encore un leader européen et un leader mondial. Donc, il ne faut pas non plus être pessimiste. Et elle a beaucoup de projets dans ses cartons pour pouvoir rester à ce niveau. Donc, il faut courber un peu les chines, être un peu résilient et que les filières qui, elles, se portent bien, mais compensent un peu pendant ce temps-là celles qui sont un peu à la traîne.
Eh bien, merci beaucoup Bruno Bergoen pour cette note d'espoir et on en a bien besoin. Je rappelle que vous êtes senior vice-président des programmes Airbus et ATR chez Safran. Vous représentez France Industrie Occitanie, vous présidez la filière industrie de la métallurgie. Le salon SIAM qui devait avoir lieu cette semaine à Toulouse est reporté à ce jour. Il serait programmé tout début décembre à Toulouse. Le salon SIAM, c'est le salon interrégional de l'industrie. Merci infiniment de vos explications ce matin.
Merci, bonne journée.
Tous les jours, retrouvez l'actualité dans votre radio chrétienne, à la radio, mais aussi sur le net par les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Allez jeter un œil sur la page Radio Présence. Retrouvons-nous sur la toile. Dans quelques minutes, justement, nous allons retrouver Emmanuel Pella dans son émission Église Actualité dans l'Occitanie, juste après Extrême sur Présence. Il est 12:18. Bon appétit si vous venez de vous mettre à table.
Just by saying I love you.
À Millau, 106.5.
Église Actualité, Emmanuel Pella.
Ce vendredi 23 octobre, à Thérobe, le diocèse d'Auch propose un concert exceptionnel avec trompette et orgue avec Guy Touvron, grand trompettiste français, dans le cadre d'une tournée anniversaire. Rendez-vous ce vendredi 23 octobre à 20h à l'église de Thérobe. Ce samedi 24 octobre, à Rodez, le diocèse de Rodez et de Vabre organise une rencontre des baptisés et des confirmants adultes de cette année en présence de Mgr Fonlu, évêque du diocèse. Rendez-vous ce samedi 24 octobre à 15h à la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez. Rencontre qui sera suivie de la messe des confirmations à 18h à la cathédrale de cette même ville. Ce dimanche 25 octobre à Lourdes, le Centre Assomption organise une retraite sur le thème « Suivre Jésus » qui sera prêchée par le père Bertrand Chevalier. Rendez-vous ce samedi 25 octobre au matin au Centre Assomption de Lourdes. Mercredi 28 octobre à Trosses, les archives départementales de l'Aude organisent une conférence sur le thème « Pèlerins et chemins de pèlerinage dans le sud de la France au Moyen-Âge et dans les temps modernes ». Pour tout renseignement, un site internet www.chemin-compostelle.com. Samedi 31 octobre à Blagnac, la communauté des Béatitudes propose une rencontre à tous ceux qui veulent vivre de la spiritualité de la communauté des Béatitudes, cette communauté dite du renouveau charismatique. Rendez-vous samedi 31 octobre dès 9h à la communauté des Béatitudes à Blagnac. Enfin, samedi 31 octobre également, à Toulouse, le diocèse de Toulouse propose de venir participer à la messe de consécration virginale de Bernadette Bourreau en présence de Mgr Robert Le Gall, archevêque du diocèse. Rendez-vous samedi 31 octobre à 18h à la cathédrale Saint-Étienne, Toulouse.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
L'essentiel de l'actualité en Occitanie avec Emmanuel Hernandez, de nouveau archevêque pour Lyon et Auch.
En effet, Monseigneur Olivier de Germay, jusqu'à présent évêque d'Ajaccio, a été nommé archevêque de Lyon suite à l'acceptation de la démission du cardinal Philippe Barbarin le 6 mars 2020. Et Monseigneur Robert Le Gall, anciennement archevêque de Toulouse, est nommé administrateur apostolique pour gouverner l'archidiocèse d'Auch jusqu'à la prise de possession canonique de Monseigneur Lacombe.
Plus de 9000 foyers privés d'électricité en Occitanie suite au passage de la tempête.
Avec des rafales de vent à 111 km/h à Toulouse, Blagnac et même 139 km/h du côté de Luchon. En pleine, la tempête Barbara a fait des dégâts matériels. La rafale de vent a entraîné de nombreuses chutes d'arbres, mais aussi l'arrêt des trains et quelques dégâts sur les réseaux électriques, entraînant des coupures chez plusieurs milliers de foyers. Rien qu'en Haute-Garonne, 3000 foyers ont été privés d'électricité, 400 foyers dans le Gers, 400 en Ariège, 1500 dans les Hautes-Pyrénées, sans oublier 800 dans le Tarn-et-Garonne, 1200 dans le Tarn ou encore 2000 en Aveyron.
1 million d'euros de fonds d'urgence pour les festivals d'Occitanie.
Les festivals sont parmi les premiers impactés par la crise sanitaire. Le chômage partiel ou l'exonération de charges ne suffisent pas. Un fonds d'urgence d'un million d'euros a donc été débloqué pour notre région. 56 festivals de musique et de cinéma ont ainsi pu être soutenus. Le cirque de Auch ou les festivals des arts de rue de Ramonville ont pu être maintenus grâce à ces aides exceptionnelles. 400 festivals d'Occitanie ont une très forte notoriété national, voire international pour certains, et près de 2000 événements peuvent prétendre à l'appellation festival au sens large.
Aurélien Pradier a présenté le bilan de sa mission de contrôle d'application de la loi contre les violences conjugales.
À l'automne 2019, le député du Lot portait une proposition de loi visant à mettre en place des mesures concrètes pour lutter contre les violences conjugales. 9 mois plus tard, le député du Lot vient de conduire une mission de contrôle de l'application de cette loi. Ont été auditionnés avocats, associations ainsi que des représentants des ministères de la Justice, du Logement et de l'Égalité entre les femmes et les hommes.
La communauté arménienne a manifesté à Foix hier.
Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées en centre-ville, drapeaux et pancartes aux couleurs de l'Arménie en main, pour protester contre le conflit avec l'Azerbaïdjan qui touche la région du Haut-Karabakh. Depuis plusieurs semaines, les manifestants se sont rassemblés pour demander aux responsables politiques d'Ariège de reconnaître l'indépendance de la République d'Artsakh. La communauté arménienne d'Ariège compterait, selon ses membres, une centaine de familles.
15% des dépenses non alimentaires des Gersois sont réalisées en ligne.
Dans le cadre de l'observation du commerce et de la consommation du Gers, la nouvelle enquête sur les comportements d'achat des ménages en Occitanie permet d'analyser les comportements d'achat des Gersois. Conclusion, la consommation augmente de 4% entre 2014 et 2020, suivant en cela le développement démographique de 3% sur la période. Cette hausse de la consommation tirée par les produits alimentaires a profité aux grandes surfaces, aux drives et également au marché et aux circuits courts. Et non alimentaire, la vente à distance capte désormais 15% des dépenses des ménages gersois.
Allons voir le ballon rond, le TFC ouvre 1000 places au stadium à ses abonnés.
C'est le pari que va faire la direction du TFC ce samedi à l'occasion du derby d'Occitanie de Ligue 2 de football contre ses voisins Rodez en Aveyron. C'est le premier derby entre ces deux clubs dans l'histoire du football en Occitanie. Sont concernés les abonnés du virage bas Brice Taton, les supporters parmi les plus ardents des violets. Cette annonce s'accompagne d'un certain nombre de mesures particulières. L'ouverture des portes du stadium se fera à 17h. Le port du masque sera bien sûr obligatoire dans toute l'enceinte du stade et le stadium fermera ses portes à 21h.
Merci Manol, on vous retrouve en fin d'heure pour un autre point sur l'actualité en Occitanie.
La météo.
Pour cet après-midi, un temps très nuageux avec 20 degrés de moyenne dans notre partie d'Occitanie. Pour demain matin, des risques d'averse s'étalent dans votre région. 15 degrés à Cap-de-Nac-le-Haut ainsi que près de l'hôtel de ville de Saint-Gaudens. 13 à Vic-en-Bigorre et dans l'Aveyron. 16 à l'entrée du métro François-Verdier à côté de la salle des fêtes Lalograin à Toulouse. Pour demain après-midi, la perturbation reste. Le mercure montera jusqu'à 17 degrés dans le Lot. Attention, en Haute-Garonne, des averses orageuses sont à prévoir, ainsi qu'en Haute-Pyrénées où vous aurez 16 degrés sous votre parapluie à 14 pour Rodez. L'émission d'Isabelle avec le tour des diocèses. Nous partons dans le Gers.
Eh ben, nous allons faire le tour du diocèse d'Auch ce matin en compagnie de Monseigneur André Meynier. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Isabelle.
Bonjour. Alors, vous allez nous dire un petit peu comment ça se passe en ce moment dans le Gers. Quels sont les événements que l'on note sur notre agenda pour le diocèse d'Auch?
Eh bien, les événements en perspective dans l'avenir, le premier que je veux vous signaler, c'est un événement qui aura lieu à long terme, dans très long terme, puisqu'il a lieu le 31 décembre 2020.
Ah oui.
Mais ça a des conséquences immédiates, c'est pour ça que je le signale. C'est la librairie, la procure, le soleil et la source qui est à la maison diocésaine d'Auch, qui cessera définitivement son activité. Et il est bon de le savoir longtemps à l'avance. Cette procure avait été ouverte voici 26 ans, en 1994, par Mgr Vanel. Et pour des raisons techniques et économiques, elle est obligée de fermer. Alors, en conséquence, dès maintenant, on peut se procurer à la procure, comme il se doit, toutes sortes d'objets religieux avec une remise de 30%. Sur les croix, les chapelets, les santons, les objets de Noël, produits monastiques, etc., dans la limite du stock disponible, bien sûr. Donc c'est une opportunité qu'il est bon de saisir maintenant, et jusqu'au 31 décembre, on pourra ainsi avoir à prix intéressant des objets religieux qui sont vraiment de qualité.
Voilà, même si la fermeture d'une librairie est toujours évidemment un crève-cœur.
Et c'est sûr, et j'entends pas mal de personnes qui se plaignent, qui envisagent déjà les difficultés qu'elles ont rencontrées pour se procurer soit des livres, soit des objets religieux ou autres objets dont elles sont habituées à se procurer. Voilà, oui, c'est toujours très ennuyeux, oui. On cherche une solution pour essayer de pallier cela. Enfin,
Est-ce que vous aviez des événements plus immédiats à nous signaler, Monseigneur ?
Alors, plus immédiat, c'est par exemple le 4 novembre. Mercredi 4 novembre, ce sont les associations familiales catholiques qui, comme tous les ans, organisent une conférence. Alors, a lieu à la salle Saint-Oran, à la maison diocésaine d'Auch. Et cette conférence sera très intéressante parce qu'elle concerne un officier de gendarmerie, le colonel Arnaud Bertrand, dont on a le souvenir. C'est cet officier de gendarmerie qui s'était offert pour remplacer une otage à Trèbes lors d'une prise d'otage par un islamiste. C'était en 2018. En mars 2018. Et ce colonel Arnaud Bertrand a eu une belle histoire. C'est un monsieur qui vient de l'incroyance, qui s'est converti et qui progressait, et accompagné par un père de l'abbaye de la Grâce dans l'Aude, le père Jean-Baptiste. Et c'est ce père Jean-Baptiste, qui a bien connu le colonel Bertrand, qui viendra dire comment ce monsieur, cet officier a évolué, comment il a vécu, comment il est arrivé à ce sacrifice qu'il a fait, et l'accompagnement spirituel que le père Jean-Baptiste lui a prodigué. Alors je pense que ce sera très intéressant.
Bien sûr, donc ça c'est le 4 novembre, cette conférence sur Arnaud Beltram qui s'est offert en sacrifice.
À la maison diocésaine à Auch.
Merci beaucoup, alors, Monseigneur. Vous aviez d'autres choses à nous dire ?
J'ai à vous dire que, comme tous les chrétiens de France, nous fêterons tout ça, et que, comme toujours, notre archevêque, l'après-midi, ira faire le tour des tombes des prêtres. Il est accompagné par des chrétiens, souvent, des chrétiens qui viennent se recueillir sur les tombes des prêtres dans le diocèse d'Auch, dans le cimetière d'Auch. Voilà, c'est un signe de l'attachement de notre évêque à ses prêtres. D'ailleurs, pour eux, il a organisé un comité de soutien, de recherche et d'accompagnement pour les prêtres qui ont des problèmes de santé. Ce comité s'est réuni avec tous les prêtres, avec les curés du diocèse la semaine dernière. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur André Meynier, pour toutes ces informations. Elles sont à retrouver sur notre site radioprésence.com. Un grand merci, je vous dis à dans 15 jours. Et demain, je vous donne rendez-vous pour un tour des diocèses. Nous irons à Albi. Merci, Monseigneur.
Merci à vous, Isabelle. Bien à 15 jours.
L'aventure Église verte pour les communautés chrétiennes qui s'engagent dans le soin de la création. Laura Morosini.
Quel lien entre la COP21 et le label Église verte? Le label Église verte, qui accompagne et stimule la conversion écologique des communautés chrétiennes, a une double origine. Laudato aussi, sur lequel nous nous reviendrons la semaine prochaine, et la mobilisation pour la conférence de Paris sur le climat, qui a secoué nos églises hexagonales comme jamais. Tout commence à la fin de l'hiver 2014. Un groupe de travail appelé Antenne Environnement élabore depuis plusieurs années des fiches thématiques destinées aux évêques pour se faire une idée des questions écologiques, biodiversité, risques technologiques. Une fiche climat est alors mise en route. Parallèlement, se crée un collectif impulsé par Justice et Paix France sur les objectifs du développement durable. Il s'agit de 17 grands objectifs que s'est fixé l'ONU afin d'améliorer le développement tout en intégrant l'écologie. Peu à peu, ce groupe œcuménique, composé de divers ONG et représentants d'églises, deviendra un groupe COP21. Le troisième facteur est l'initiative issue de la Fédération luthérienne mondiale, qui envoie depuis plusieurs années des jeunes suivre les négociations internationales sur le climat. L'un d'eux est rentré en France avec l'idée de diffuser un jeûne pour le climat. Pourquoi un jeûne? Pour marquer la solidarité avec les populations les plus touchées par le changement climatique. C'est la rencontre avec l'association Chrétiens Unis pour la Terre qui permet à cette initiative de prendre une grande ampleur grâce à la mobilisation de son réseau de personnalités, Nicolas Hulot, Monseigneur Stinger, évêque de Troyes, l'imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, et le réseau Action Climat. Le pasteur Claveroli, président de la Fédération protestante, participe aussi activement à la mobilisation. Et bientôt, des dizaines de groupes de jeûneurs se réunissent en France pendant 8 mois, jusqu'à la conférence de Paris. D'autres initiatives chrétiennes auront lieu également pour la COP21, la préparation d'une grande marche, hélas annulée suite aux attentats du Bataclan, la diffusion publique d'un livret « Habiter autrement la création », une grande célébration œcuménique à Notre-Dame de Paris, l'accueil de pèlerins climatiques venus du monde entier dans les paroisses et les Assises chrétiennes de l'écologie qui réunissent 2000 personnes à Saint-Étienne. Toutes ces initiatives, à la fois œcuméniques et mobilisatrices, ont ravivé le goût d'agir ensemble. Et le collectif COP21 ne tardera pas à réfléchir à une nouvelle initiative, le label Église verte.
Radio Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Dans moins de 5 minutes, vous retrouverez votre évangile commentaire comme tous les jours à peu près à la même heure. Et si vous ne pouvez pas écouter, ça arrive, vous pouvez aller sur le www.radioprésence.com et retrouver toutes vos émissions, vos chroniques, vos évangiles à écouter et réécouter sans modération. En attendant de la musique, avec celui qui s'est payé le luxe de chanter dans la cathédrale Saint-Étienne de Cahors. Je parle bien sûr de Laurent Voulzy sur votre radio chrétienne. Vous êtes en famille, vous venez de passer à table. Bon appétit. Il est 12h39 sur la pendule de Présence. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h.
Jeanne, enfin je vais vous dire combien je soupire. Vous êtes si loin d'ici. Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime. L'âme pleine de mélancolie. J'aime, j'aurais aimé vous plaire. Et je désespère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âmes. chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Au bois dormant, vous prendriez ma vie, je prendrais votre main. Nous irions dans un lit comme des amants. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie.
Présence dans le Grand Toulouse, 97.9. L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Quand ils eurent mangé, il dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Et il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?» Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu ?» Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs bien-aimés, Beaucoup d'entre nous ont encore en tête cette image de Saint Jean-Paul II, venu ici, comme il le dit lui-même, à la fin de son pèlerinage terrestre. C'était la veille du 15 août 2004. Saint Jean-Paul II, agenouillé ici, dans cette grotte. Il était déjà venu ici en tant que pape le 15 août 1983 pour le jubilé de la rédemption et le 125e anniversaire des apparitions. Venir ici pour Jean-Paul II était une grande grâce qu'il désirait tant. Lui dont nous connaissons la dévotion mariale, sa devise « Totus tuus, je suis tout à toi » qu'il a tiré de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, exprime cet abandon dans la confiance entre les mains de la Vierge Marie, la mère du Rédempteur. Ce même Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort qui nous invite à aller à Jésus par Marie, comme c'est marqué sur la mosaïque de l'abside de la basilique Notre-Dame du Rosaire. Saint Jean-Paul II, donc, était venu ici, certes, comme pape, mais en tant que pape, il a voulu venir ici comme pèlerin, comme ces millions de pèlerins qui sont venus ici depuis plus de 160 ans, à la grotte, à la suite de Sainte Bernadette, pour prier la Vierge Immaculée, pour se laisser regarder par elle, pour entendre d'elle cet appel à la conversion, à la miséricorde, à demander le pardon de nos péchés. Voici ce que disait Saint Jean-Paul II à propos de Lourdes en 1983, ici même. Il me semble qu'il y a une grâce particulière à Lourdes. Le message est sobre et clair, mais fondamental. Il a été transmis d'une façon spécialement forte, pure et transparente, par une adolescente à l'âme limpide et courageuse. Les signes sont simples. Le vent qui évoque l'esprit de la Pentecôte. L'eau de la purification et de la vie, la lumière, le signe de la croix, la prière du rosaire. Dès le début, les chrétiens sont invités à y venir en foule, en église. Et de fait, c'est comme si ici, le respect humain et toutes les réticences qui trop souvent bloquent la conversion et l'expression religieuse était naturellement surmonté. Ici, on prie, on aime prier, on aime se réconcilier avec Dieu, on aime vénérer l'Eucharistie, on a fait une place d'honneur aux pauvres, aux malades. C'est un lieu exceptionnel de grâce. Dieu soit loué. Oui, frères et sœurs bien-aimés, Dieu soit loué pour tous les cadeaux qu'il nous fait dans chacune de nos vies. Dieu soit loué, bien évidemment, pour ce lieu béni où nous pouvons venir, comme le rappelle Saint Jean-Paul II, en nous plongeant dans les eaux de la source, nous réconcilier avec Dieu, revivifier la grâce de notre baptême, nous laisser éclairer par la lumière qu'est le Christ. Dieu soit loué aussi pour le don des saints qu'il fait à son Église, et en particulier Saint Jean-Paul II que nous fêtons aujourd'hui. Dans une époque troublée, son message apparaît encore plus que pertinent et important à réentendre aujourd'hui, 42 ans après sa messe inaugurale. N'ayez pas peur d'ouvrir les portes de votre cœur au Christ. Voilà ce que nous a dit Jean-Paul II. Mais pour ne pas avoir peur, il nous faut être il nous faut être rassurés. Et qui mieux qu'une maman peut rassurer ses enfants qui ont peur? La Vierge Immaculée, Mère de l'Église, Mère du Rédempteur, et notre Maman du Ciel, comme dirait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, avec l'aide de Saint Jean-Paul II, prions-la pour qu'elle nous rassure, qu'elle nous aide à ouvrir les portes de notre cœur au Christ, à ne plus avoir peur malgré les épreuves de la vie, et que surtout nous n'ayons pas peur de venir ici en pèlerinage à Massabielle, un lieu où nous pourrons nous appuyer sur le rocher qu'est le Christ, nous pourrons nous laisser illuminer par la grâce de sa miséricorde, où nous pourrons nous laisser purifier par l'eau de son amour. Amen.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Dans 5 minutes, vous allez avoir un point sur l'actualité grâce à Imanol Hernandez. Et puis, je vais tout vous dire sur votre météo dans l'Occitanie pour ces prochains jours. Tout ça, c'est juste après collégial. Et ça tombe bien, c'est les vacances des petits bouts de choux. Vous êtes en famille. Le titre, je vous le donne en mille, famille.
Écrever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, mais tout ça n'a pas d'importance.
Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir ou bizarre, je reconnais ton regard.
Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois.
De ma famille, de mon ordre et de mon rang.
Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens.
Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde
qui te protège si longtemps.
Je sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi.
Tu crois pas grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi.
T'es du parti des perdants,
consciemment, viscéralement.
Et tu regardes en bas, mais tu t'en verras pas tant qu'on aura besoin de toi.
Tu prends les bonheurs comme grains de raisin, petit bout de petit rien.
Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens.
Tu es de ma famille.
Tu es de ma famille, tu m'aimeras, tu
qu'il te protège si
longtemps.
Dans 3 minutes, il est 13h, le point sur l'actualité de votre région avec Emmanuel Hernandez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vos titres en Occitanie. Le pape François a nommé en ce jour Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, et Monseigneur Bertrand Lacombe, archevêque d'Auch. 1 million d'euros de fonds d'urgence pour les festivals d'Occitanie. Les festivals sont parmi les premiers impactés par la crise sanitaire. Le chômage partiel ou l'exonération des charges ne suffisent pas. Un fonds d'urgence de plus d'1 million d'euros a donc été débloqué pour notre région. Aurélien Pradier, député du Lot, a présenté le bilan de sa mission de contrôle d'application de la loi contre les violences conjugales. 9 mois après le vote de la loi, ont été auditionnés avocats, associations ainsi que les représentants des ministères de la Justice pour constater comment les nouvelles mesures sont appliquées. La communauté arménienne a manifesté à Foix hier. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées en centre-ville pour protester contre le conflit avec l'Azerbaïdjan qui touche la région du Haut-Karabakh depuis plusieurs semaines. 15% des dépenses non alimentaires des Gersois sont réalisées en ligne. Une hausse de la consommation a été constatée, tirée par les produits alimentaires. Cette hausse a profité aux grandes surfaces grâce au drive, mais également au marché et aux circuits courts. Le TFC ouvre 1000 places au stadium à ses abonnés. C'est le pari que va faire la direction du TFC ce samedi à l'occasion du derby d'Occitanie de Ligue 2 de football contre ses voisins de Rodez en Aveyron. Effet inattendu de la tempête Barbara, elle a balayé le manteau neigeux dans les Pyrénées. Les épisodes neigeux avaient pourtant été très importants et assez inhabituels pour cette période de l'année dans les Pyrénées.
Un rapide coup d'œil sur votre météo pour cet après-midi, un temps très nuageux avec 20 degrés de moyenne dans notre partie d'Occitanie. Pour demain matin, des risques d'averses s'étalent dans votre région. 15 degrés à Cap de Nacleau, ainsi que près de l'hôtel de ville de Saint-Gaudens, 13 à Vic-en-Bigorre et dans l'Aveyron, 16 à l'entrée du métro François Verdier à côté de la salle des fêtes à la Halograin à Toulouse. Pour demain après-midi, la perturbation reste, le mercure montera jusqu'à 17 degrés dans le Lot. Attention, en Haute-Garonne, des averses orageuses sont à prévoir ainsi qu'en Haute-Pyrénées où vous aurez 16 degrés sous votre parapluie, 14 pour Rodez. Je vous dis à demain midi et je vous laisse avec votre journal international de Radio Vatican. Prenez soin de vous.
Radio Présence à Argelès-Gazost 91.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
À la une de l'actualité, Vatican, le renouvellement de l'accord Chine sans siège sur la nomination d'évêque, il est reconduit pour deux.